on traduit par âme. Et c'est un point de vue. Et on a tiré de la psyché toute une psychologie qui précisément consiste à dire la lune telle qu'elle est différente pour chacun de ceux qui la regardent, et non la lune telle qu'elle apparaît au milieu du ciel. Mais Aristote disait, parlant de la psyché, « E psyché, ta onta, possesti panta », ce qui peut se traduire par « la psyché est à sa façon tous les étant autant qu'ils sont ». Ce qui ne veut pas dire que quand je vois une chèvre, je deviens moi-même chèvre, ce qui ne veut pas dire que quand je vois une bouteille, je deviens moi-même bouteille, ce qui veut dire simplement que ce soit chèvre ou que ce soit bouteille, l'une et l'autre me sont immédiatement présentes sans que rien n'en sépare, à la manière d'une cloison ou d'un écran.
Dasein veut donc suggérer une dimension plus fondamentale que le moi, que la conscience.
C'est très exactement pour dire que la conscience n'est pas une dimension fondamentale, mais une dimension dérivée et pour ainsi dire endettée à l'égard de siècles de philosophie, que Heidegger revient de la conscience à l'immédiateté du Dasein. Dasein est donc un terme intraduisible. Eh bien, la question telle qu'elle est développée d'un bout à l'autre de Sein und Zeit, eh bien, l'apparition de l'être dans l'horizon du temps, mais pour le Dasein, et pas encore pour l'être lui-même. Voilà en quoi un Heidegger II commence à percer sous un Heidegger I, des Sein und Zeit. Qu'est-ce qui caractérise le temps ou la temporalité, comme on dit parfois, entendant par temporalité ce qui fait que le temps est lui-même temps. Qu'est-ce qui constitue la temporalité propre au Dasein? D'une façon générale, quand on pense à temporalité, on pense succession temporelle, c'est-à-dire que quelque chose est arrivé avant autre chose, et qu'une troisième chose arrivera après la seconde. Le propre du livre de Heidegger est de penser que cette interprétation du temps n'est pas son interprétation phénoménologique, que le phénomène du temps, ou comme disait Goethe, lourd phénomène, le phénomène originel du temps, n'est pas la succession des moments, mais, dit Heidegger en allemand, die gleiche Ursprünglichkeit der Ekstasen, que l'on pourrait traduire par la contemporanéité des Ekstases. Entendons la contemporanéité d'un passé, d'un présent et d'un avenir n'appartient autant que celui qui, dans le présent, se sait à partir d'un passé et s'ouvre à son avenir de telle sorte que les trois dimensions du présent, du passé et de l'avenir sont exactement contemporaines et définissent ce que Kierkegaard appelait l'instant et qui est le point essentiel du temps. Mais l'instant n'est pas le moment qui passe, l'instant est le fait que tout ce qui apparaît appartient à un même monde. Par exemple, si vous voulez, Descartes fondant un présent, le fonde à partir d'un géomètre grec qui s'appelait Apollonius et en qui il voit, pour ainsi dire, l'ancêtre de son interprétation mathématique de la nature, et dans le discours de la méthode, il s'adresse à ceux qu'il nomme mes neveux, qu'il considère comme des contemporains, encore à venir, par conséquent, contemporanéité du présent, du passé et de l'avenir. Nietzsche en avait compris quelque chose quand il distinguait dans l'histoire ce qu'il appelait l'histoire monumentale, l'histoire antiquaire et l'histoire critique. L'histoire monumentale, c'est celle qui autorise un avenir. L'histoire antiquaire, c'est celle qui contrôle cet accès à l'avenir par une référence au passé Et l'histoire critique, c'est celle qui fait jaillir le présent, au sens où Mallarmé dit le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire le maintenant qui passe, mais ici et maintenant, où nous sommes tous appartenant à un même monde.
Jean Beaufret, dans cette troisième émission, poursuit son dialogue avec la pensée de Heidegger, dont il fut durant 30 ans l'interlocuteur, le compagnon de route et l'ami. Il a tenté d'éclairer pour nous quelques étapes de l'itinéraire de Heidegger, itinéraire qui conduira Heidegger, dans le droit fil de sa question sur le sens de l'être, à poser en 1935 la question de la technique dans le monde moderne. Mais dès 1927, que nous dit le livre « L'être et le temps, Sein und Zeit » qui conféra à Heidegger une renommée internationale. Un livre dont le vocabulaire peut dérouter un lecteur français. Qu'est-ce que le « Dasein » de l'homme, par exemple? Jean Beaufret nous l'explique en l'opposant au « cogito », au « je pense » de Descartes, ou encore à ce que nous appelons aujourd'hui « conscience ».« Dasein » au sens de Heidegger, est la dimension fondamentale propre à l'homme, en tant que l'homme, est ouverture à la présence des choses. Jean Beaufret, l'étude de Richardson publiée aux États-Unis et consacrée à Heidegger, distingue deux étapes dans son œuvre. Entre les deux étapes, une sorte de saut. Richardson va même jusqu'à parler d'un Heidegger 1 et d'un Heidegger 2. Y a-t-il donc plusieurs Heidegger?
Parce que le titre qui convient le mieux à la philosophie de Husserl dans son ensemble, c'est celui qu'il a donné à un recueil qui n'a été édité que très tardivement, bien que les textes qu'il rassemble aient été prononcés à Paris en 1928, méditation cartésienne.
Mais la conscience, centre de référence de toute réalité, c'est une caractéristique du monde d'aujourd'hui. C'est une chose qui n'a pas existé hier dans d'autres civilisations, chez les Grecs par exemple.
Bien sûr que non, les Grecs n'avaient pas de conscience. Ce qui ne voulait pas dire qu'ils étaient inconscients.
Au cours du séminaire du Thor chez René Char, Heidegger dit à peu près, pour les Grecs, les choses apparaissent. Pour l'homme des temps modernes, les choses m'apparaissent.
Les Grecs aussi disaient, emoi phainetai, cela m'apparaît ainsi. Mais le mot n'a pas le même sens. Ce pronominal dans Descartes a un sens beaucoup plus violent qu'il n'a jamais eu chez les Grecs. Les Grecs avaient trouvé que les choses apparaissaient, et c'est pourquoi elles m'apparaissaient, parce qu'elles ont une telle surmesure que je ne puis pas les voir dans leur dimension même de choses. Elles sont plus riches que je n'y suis. Tandis qu'avec Descartes, au contraire, c'est ce en quoi elles m'apparaissent qui les détermine dans le plus intime de leur vérité. C'est tout le contraire. Si vous voulez, la phrase de Protagoras, « L'homme est la mesure de toute chose », est un soupir sur le fait de n'en pas pouvoir davantage. C'est déjà énorme d'aller jusque-là. Pour Descartes, au contraire, l'homme est la mesure de toute chose en un sens véritablement impérialiste, qui n'était pas le sens de Protagoras. J'ai beau faire, je ne veux pas voir au-delà de l'horizon jusqu'où se porte ma vue. C'est simplement ça qu'il disait.
Quand il examine le morceau de cire dans le discours de la méthode, que dit Descartes?
Descartes dit, tu n'es pas en autre chose que... Mais cogitante, tandis que je t'ego cogite.
C'est une chose qui aurait été sans doute incompréhensible pour les Grecs.
Incompréhensible, inadmissible, stupéfiante. Les Grecs voyaient les choses ouvertes à l'ouvert. Descartes voit les choses dans la mesure où il les attire dans le réseau de ce qu'il nomme cogitatio. Et alors, à ce moment-là, elles ne prennent que la nature que lui permet, ce qu'il nomme intuitus, le coup d'œil qui jette sur elle et qu'il est réduit, comme il dit, le fait que le mot réduire soit employé à plusieurs reprises par Descartes. Par exemple, je n'examinerai une question de physique que l'ayant réduite aux lois des mathématiques, tout à fait étrangère à Platon. Les Grecs ne sont pas des réducteurs, les Grecs seraient plutôt des gens qui essaient de se dilater jusqu'où il y a des choses, le contraire même de la réduction. Mais alors la question qui se pose est de savoir pourquoi, c'est-à-dire que vient faire cet ego cogito qui prend la première place et qui joue le premier rôle dans la philosophie de Descartes. Et alors la question, à ce moment-là, consiste à se demander si la dimension dans laquelle les Grecs éprouvaient la présence des choses, leur poids, leur dimension propre, n'est pas quelque chose qui a disparu. Platon parle quelque part de ce qu'il appelle exodos tes epistemes, l'exode d'épistémé. Mais qu'est-ce que épistémé? Dans son fond, épistémé, c'est aletheia. On traduit aletheia par vérité. Il ne s'agit pas tant de vérité que ce que dit le mot aletheia lui-même, à savoir présence à découvert de quelque chose. Ils sont là où la chose leur est présente à découvert. Aucune réduction n'en est possible. C'est plutôt eux qui sont réduits par l'énergie d'apparition qui est celle de la chose. Ils sont admiratifs par rapport à ce phénomène, comme ils disent, originaire, qui les émerveille de toutes parts. Tandis que un cartésien jette un regard égo-cogitatif sur la chose qui lui est devenue objet. Mais s'il en est réduit à ce regard cogitatif, n'est-ce pas à cause du départ, comme dit Platon, de l'aletheia elle-même, c'est-à-dire de la dimension dans laquelle les Grecs pouvaient éprouver les choses à découvert.
L'homme des temps modernes est donc, au fond,
l'homme égo-cogitatif de Descartes, mais bien sûr. Et c'est ce que peut dire le mot de subjectivité, tel qu'il sera employé assez tardivement, car évidemment on ne le trouve pas encore dans Descartes, mais on le trouve dès Kant. Et il deviendra porté à la hauteur d'une institution par les philosophes qui s'inspireront de Kant, à savoir Schelling, Hegel. C'est la même subjectivité qui est à la base, dira Heidegger, de la philosophie de Nietzsche. Toute la philosophie moderne et la philosophie de la subjectivité, dont la phénoménologie de Husserl est l'un des plus beaux fleurons.
Cette attitude sera à l'origine du projet mathématique de la nature.
Mais bien sûr, car rien n'est plus en accord avec cette manière qu'a l'homme moderne de toiser la chose que son interprétation mathématique. Qu'y a-t-il de plus satisfaisant du point de vue égo-cogitatif que de dire que la seule chose à savoir par rapport à quelque chose, c'est de répondre à son sujet à la question de combien?
L'étang est donc pris pour cible et comptabilisé.
L'étang est pris pour cible et comptabilisé. L'étang est le butin de l'ego cogito. L'homme est en train de devenir celui que Descartes appelle le maître et possesseur de la nature.
C'est cela qui caractérise les temps modernes.
Très exactement. Les temps modernes sont caractérisés par là. Et comme nous en sommes nés et que nous en avons été pétris, nous n'éprouvons plus ce qu'il y a d'insolite dans ce rapport à l'étang.
Vous disiez que
l'étang est aussi étranger aux Grecs qu'on puisse imaginer.
L'attitude des Grecs, c'était d'abord devant l'étang, la réalité, l'émerveillement, l'étonnement.
L'émerveillement plus que l'étonnement.
Et pour nous ?
Pour nous, c'est la certitude.
La certitude de quoi ?
Avoir une certitude relativement à l'autre. C'est ce que Heidegger appelle parfois la mutation de la vérité en certitude. C'est toute une histoire, car le mot grec que l'on traduit par veritas, c'est le mot aletheia. Que dit aletheia ? Il dit très clairement qu'il est la présence à découvert de quelque chose. Que dit veritas ? Il ne dit rien. Et c'est bien pourquoi la scolastique qui parle latin, qui n'a que le latin à son service, sera obligée de le définir. Veritas est, la vérité est. Et alors le définir comment ? La définition sera veritas est adéquation. Intellectus et rei, la vérité est l'adéquation de l'entendement et de la chose.
Il y a donc d'une part un sujet et de l'autre part un objet.
Pas encore. Il n'y a d'objet qu'à partir du moment où intervient le sujet cartésien. Nous ne sommes pas encore à Descartes. Nous sommes à l'époque de la vérité comme adéquation, qui n'est plus du tout l'époque de la vérité comme aletheia.
Comme aletheia, c'est-à-dire ?
Comme aletheia, comme présence à découvert de la chose elle-même. La mesure de la vérité est l'adéquation de A. De quoi à quoi ? De l'entendement de l'homme à la chose, ou de la chose à l'entendement ? Ça dépend, dit saint Thomas. S'il s'agit de Dieu qui est le créateur des choses, la vérité est l'adéquation des choses créées par Dieu à l'entendement divin. S'il s'agit de l'homme qui n'est pas le créateur des choses, la vérité est l'adéquation de l'entendement humain aux choses telles que Dieu les a créées. Par conséquent, le mot adéquation doit s'entendre aussi bien dans un sens que dans l'autre.
Tandis que pour les Grecs,
aletheia comportait bien un élément d'adéquation. Ils appelaient cela dans leur langage homoiosis. Et c'est homoiosis qui est traduit en latin par adéquation. Mais l'homoiosis au sens grec était porté par l'aletheia, baigné par l'aletheia, maintenu ouverte par l'aletheia. Tandis qu'au contraire, l'adéquation est un terme pris comme se suffisant à lui-même. Et c'est bien pourquoi Descartes ne s'en contentera plus, car si vous mettez entre parenthèses la révélation biblique, à savoir que la vérité est l'adéquation des choses créées à l'entendement divin, et l'adéquation de l'entendement de l'homme aux choses créées, si vous mettez à part l'apocalypse biblique, quel peut bien être le fondement de l'adéquation ? C'est là qu'intervient Descartes. C'est la vacuité de l'adéquation pour qui ne se réfère pas d'abord à la Bible. Or, dit Descartes, mon projet est de philosopher sans la lumière de la foi. Par conséquent, celui qui a pour projet de philosopher sans la lumière de la foi, c'est le concept même d'adéquation qui va lui paraître inadéquat. Tout l'effort de Descartes est pour donner à l'adéquation, l'homoiosis grec, fondé dans l'aletheia, un nouveau support. Et ce nouveau support, à partir de l'ego qui s'égocogite toute chose, va être la certitude. Descartes est l'homme qui tente de devenir certain des choses. Alors que cette prétention à la certitude n'avait aucune place dans la philosophie grecque. Il s'agissait simplement d'égaler la chose dans l'ouverture de sa manifestation, ou de sa présence, si vous voulez. Mais nous sommes nés de là, c'est-à-dire Il nous paraît, on ne peut plus naturel, de mesurer les choses à l'aune d'une certitude possible à leur égard, et non pas à l'aune de leur manifestation en pleine lumière.
Ce sera le début du projet mathématique de la nature.
C'est l'essence même du projet mathématique de la nature.
Du regard scientifique.
Du regard scientifique.
De la technique.
De la technique. De la technique qui est le triomphe sur le monde du regard scientifique. Au point que la philosophie aujourd'hui a fini par imaginer qu'elle avait des comptes à rendre à la science. Et que la philosophie s'est mise en tête qu'elle ne pouvait exister que si les sciences lui en donnaient l'autorisation. Ce qui est quand même le phénomène le plus formidable que l'on puisse imaginer, alors que, dans l'optique grecque, c'était la philosophie qui rendait possible les sciences, lesquelles n'étaient jamais qu'une restriction du champ primitivement ouvert par la philosophie. Toute la philosophie de Platon est portée par la réciprocité d'ousia, qui dit l'être, et aletheia, qui dit être découvert. Et c'est seulement sur cette base que les mathématiques sont possibles pour Platon. C'est-à-dire que 2 et 2 font 4. Si c'est une proposition qui est valable aussi bien pour Platon que pour Descartes, elle n'a plus du tout le même sens pour Descartes que pour Platon. Pour Platon, 2 et 2 font 4 parce que la chose m'apparaît dans l'ouvert. Pour Descartes, 2 et 2 font 4 parce que j'en suis égo-cogitativement certain. Descartes pense exactement à l'envers des Grecs. Mais nous sommes tellement pétri de cartésianisme que nous n'arrivons plus à nous en étonner, et nous nous étonnons plutôt des Grecs en les croyant naïfs, des réalistes naïfs, comme on dit encore dans les histoires de la philosophie. Une de mes premières questions à Heidegger était: mais quelle était donc la dimension qui, dans la philosophie grecque, jouer le rôle de ce que va être dans la philosophie ancienne l'ouverture du champ transcendantal. L'ouverture du champ transcendantal qui est le regard jeté sur les choses par le « je pense ». Et bien sûr, me disait Heidegger, qu'il doit bien y avoir quelque chose dans la philosophie grecque qui joue ce rôle, qui maintient ouvert un horizon, mais ce quelque chose n'est pas le regard jeté sur les choses par le « je pense », ce quelque chose est l'ouverture de l'aletheia.
C'est-à-dire, aletheia, que nous traduisons par vérité,
oui,
mais qui, dans sa dimension complète et profonde, signifie
ouvert sans retrait, pleinement ouvert. Rien ne s'en retire, ne devient adélon, dit Aristote, inapparent. La chose présente de telle façon que plus rien d'elle ne soit inapparent. Il faut comprendre que l'adaptation de l'ego cartésien du jeu à la connaissance soit une opération très tardive, quelque familière qu'elle nous soit aujourd'hui, et surtout à cause des ambiguïtés qu'elle comporte. Parce que le jeu, c'est à la fois l'expérience intérieure qui va avoir au XIXe siècle une fortune, et c'est aussi le regard égo-cogitatif, ce qui est tout autre chose, à tel point, dit Heidegger, que le sujet de l'expérience intérieure n'est que la postérité indigente du « je pense, je suis cartésien » et non pas du tout son centre. Son centre, c'est le regard scientifique. La psychologie est un problème latéral, en réalité.
Il ne s'agit ici en aucune façon de contester la science, de contester l'ego. Il s'agit tout simplement de comprendre comment s'est développé un regard, une manière de voir les dents, de se représenter les dents, au détriment de toute autre possibilité.
Les autres possibilités existent, c'est-à-dire que, et c'est précisément ce qui va être la grande découverte de Heidegger aux environs de 1935, les choses ne sont quand même pas ce que la science nous dit qu'elles sont, car si les choses n'étaient que ce que la science nous dit qu'elles sont, alors les aquarelles de Cézanne, qui représentent sous divers angles et à diverses heures du jour la montagne Sainte-Victoire, seraient autant de théorèmes sur l'équilibre des solides. Or, les peintures de Cézanne ne sont pas des théorèmes sur l'équilibre des solides, ce sont bel et bien des peintures. Elles nous présentent la montagne Sainte-Victoire. Par conséquent, il y a un être des choses qui est tout différent de celui que la science nous fait connaître, c'est-à-dire celui dont le révélateur est l'art. Pour Heidegger, le comble de l'art s'appelant poésie, et il entend par là non pas que les arts plastiques, comme on dit, seraient réductibles à la poésie, mais qu'il y a tout aussi bien une poésie plastique qu'une poésie là où l'unique matière du poète, c'est la parole. Mais alors à ce moment, il faudrait dire que Notre-Dame de Paris est non moins un poème que n'importe quel poème de Victor Hugo, par exemple. Et alors, par conséquent, il est bien clair qu'il y a un autre accès aux choses que l'accès égo-cogitatif, à savoir celui que développent les sciences, c'est l'accès que cherche l'artiste, qu'il soit poète, qu'il soit peintre, qu'il soit sculpteur. Mais, et comme le dit déjà Platon, entre la philosophie et la poésie, la diaphora, la dissension, est palaïa, de longue date. Elle date de loin, et c'est quand même déjà Platon qui avait pensé que les poètes étaient tels qu'ils devaient être exilés de la cité, c'est-à-dire du monde tel qu'il est, régi par la philosophie. C'est là une chose qui montre que déjà le début de la philosophie est plus réductif qu'il n'en a l'air. C'est-à-dire qu'il exclut la façon dont le poète parle des choses. Les exemples que donne Platon sont sommaires. Il parle des dieux qui vont de ville en ville, or les dieux ne peuvent pas aller de ville en ville, des dieux qui changent de forme, or rien ne répugne davantage à la divinité du dieu qu'un changement de forme, etc. Alors par conséquent, arrose sur la parole poétique, et c'est la parole philosophique qui doit régir la cité d'un bout à l'autre. Mais cherchez dans Descartes un rapport possible avec, d'ailleurs, l'extraordinaire poésie qui a régné à son siècle, il n'y en a aucun, et c'est pourquoi un poète mineur, d'ailleurs, du XVIIIe siècle, a pu dire, j'ai toujours ouï dire à Monsieur Boileau que Monsieur Descartes avait coupé la gorge à la poésie.
Jean Beaufray, à propos de Heidegger, vous écrivez ceci. L'art, dont le nom le plus propre pour Heidegger est la poésie, est aussi rigoureux que la pensée la plus attentive. La pensée lui répond à sa guise, mais en même rigueur. L'art est une des cimes de la parole, dont l'autre cime est la pensée. Quel est dans le temps le moment où Heidegger tant une approche de l'œuvre d'art?
Certes pas au temps de Zeinunzeit, où le seul témoignage emprunté à l'art est un court poème latin à propos du souci et dont l'intérêt n'est guère qu'antiquaire. C'est plus tard. C'est plus tard que Heidegger s'avise de la dignité essentielle de l'œuvre d'art. Et la première apparition de la chose est dans le cours qu'il fait à l'Université de Fribourg au semestre d'été 1935, le titre du cours étant « Introduction à la métaphysique ». C'est à la page 20 de ce livre que l'on lit la phrase suivante. De même rang que la philosophie et sa pensée, il n'y a que la poésie. Et c'est la même année, 1935, que Heidegger fait, à Fribourg, une conférence sous le titre de « Ursprung des Kunstwerkes », on veut traduire « l'origine de l'œuvre d'art ». Alors, par conséquent, c'est seulement l'année 1935 qui marque l'arrivée du poème au centre de la visée de Heidegger. Jusqu'ici, ce n'est pas qu'il n'attachait pas d'importance au poème, puisque déjà la lecture de Hölderlin et de Trakl jouait un rôle essentiel dans sa vie, mais la poésie n'avait pas encore trouvé une fissure par où elle pouvait s'introduire dans le monde dont part Zeit pour le dépasser, mais dans lequel il reste encore, il demeure encore. C'est l'année 1935 qui apporte à la pensée de Heidegger une thématique toute nouvelle, qui est la thématique de la parenté intime de la poésie et de la pensée.
Vous dites aussi, Jean Beaufret, dans l'une de vos conférences, la parole poétique sauve l'apparition. De quelle apparition s'agit-il ?
De l'apparition de la chose dans la surmesure de sa présence, comme avait dit Heidegger un jour au séminaire du Thor, c'est-à-dire dans la plénitude de ce que les Grecs appelaient aletheia. La parole poétique sauve l'apparition au sens où disait Baudelaire, elle seule restitue les choses à l'éclatante vérité de leur harmonie native.
Jean Beaufret, dans cette quatrième émission, poursuit son dialogue avec la pensée de Martin Heidegger, dont il fut durant 30 ans l'interlocuteur et l'ami. Il nous explique aujourd'hui ce que Heidegger appelle le non-dit de la philosophie et la nécessité d'une remontée jusqu'à sa source oubliée, remontée qui éclaire et transfigure son parcours. C'est dans cet horizon que Heidegger commencera à poser en 1935 sa question décisive sur la technique dans le monde moderne. Une mise en question qui n'est pas une vitupération contre la technique, mais une méditation pour mieux comprendre sa nature encore impensée et nous permettre d'avoir un rapport plus libre avec elle. Jean Beaufret évoque aussi la parenté intime qui existe entre la philosophie et la poésie. Jean Beaufret, vous écrivez « L'art dont le nom pour Heidegger est la poésie est aussi rigoureux que la pensée la plus attentive. La pensée lui répond à sa guise, mais en même rigueur. L'art est une des cimes de la parole, dont l'autre cime est la pensée. »
Dans la phrase que vous venez de citer, je dis qu'elle n'est pas une nouvelle thèse sur l'être qui s'ajouterait aux thèses métaphysiques qui se sont succédées de Platon à Nietzsche, mais quel serait le non-dit de la métaphysique elle-même? Et en effet, cette locution de non-dit apparaît souvent dans Heidegger, au moins à partir d'une certaine date. Que faut-il donc entendre par un non-dit de la métaphysique? Il ne s'agit évidemment pas d'un non-dit au sens de cette exercice bien connu dans les écoles primaires qui consiste à restituer dans une phrase le mot qui manque. Par exemple, la nourriture du trois points est grossière mais saine. Et alors, on avait le choix entre différents mots qui étaient mis à part. Il fallait remplacer les trois points par le paysan. Ça donnait la nourriture du paysan et grossière mais saine. En un sens, c'était bien le non-dit de la phrase. On peut dire d'ailleurs, d'une façon générale, sur le plan de la science, eh ben, c'est à cela que se ramène généralement ce qu'on appelle un problème. C'est ce que dit Leibniz. Résoudre le problème, c'est, disait-il dans les nouveaux essais, compléter une proposition dont une partie est laissée en blanc. C'est donc là le type même du problème scientifique. On peut dire en ce sens que le non-dit de la géométrie euclidienne sera, d'après Lobachevsky, que la proposition de la parallèle unique ne dépend pas des autres axiomes, chose que Euclide ne savait pas. De même, on peut dire que le non-dit de la physique pré-relativiste, et là c'est Einstein qui parle, que le non-dit de la physique pré-relativiste est que la vitesse de la lumière ne se compare pas avec les autres vitesses. Donc il s'agit là essentiellement d'un blanc à remplir, autrement dit d'une lacune à combler. Au contraire, quand Heidegger parle du non-dit de la métaphysique, il ne s'agit pas d'un non-dit au sens d'une lacune à combler, d'un blanc à remplir, mais il s'agit d'un non-dit au sens de refus positif de se laisser dire. Ici, le grec nous aiderait mieux à comprendre que le français. En grec, il y a deux négations, la négation « ou » qui constate simplement l'absence de quelque chose, et la négation « mais » qui fait intervenir une défense devant ce qui suit le « mais ». Le non-dit serait donc non pas un ou légoménon, mais un mais légoménon, comportant une défense portant sur ce qui pourrait être dit. Par exemple, c'est la dernière parole d'Archimède, lorsqu'il a été tué par un soldat romain pendant qu'il était en train de se démontrer à quelque chose sur une figure qui traçait sur le sable. Il a dit au soldat romain « Mimutus cuclus tarasse » ne dérange pas mes cercles. Défense de déranger mes cercles. Écarte-toi. Ne me gêne pas, ne me trouble pas dans mon travail. Eh bien, le non-dit de Heidegger, c'est un non-dit au sens du « mais », de la défensive qu'implique le « mais », et non pas simplement de la simple absence que désigne la particule « ou ». Mais pourquoi ce non-dit ?
Est-ce que cela veut dire aussi que cela n'a pas été pensé ?
Nous ne sommes pas encore là. Expliquons simplement le caractère particulier de « non » dans la locution « non-dit ». Pourquoi y a-t-il non-dit ? Non pas parce qu'il y aurait une lacune par rapport à ce qui n'a pas été dit, mais parce que quelque chose refuse positivement, pour ainsi dire, de se laisser dire. Seulement, si la chose en question refuse de se laisser dire, ce n'est pas, dirions-nous, par défaut, mais plutôt par excès. Ce n'est pas parce que ce qui est en question et se trouve barré par la négative ne se montre pas assez, mais parce qu'au contraire, il ne se montre que trop. C'est la phrase d'Aristote dans le livre Petit Alpha de la métaphysique, à la fin du chapitre 1, « Comme les yeux des nocturnes devant la lumière du soleil, ainsi le regard de notre pensée devant ce qui, par lui-même, est le plus en lumière. » On peut dire que cette phrase d'Aristote est le fil conducteur de Heidegger d'un bout à l'autre de sa recherche de non-dit de la métaphysique. Et c'est là précisément qu'il en appelle au regard phénoménologique, parce que le propre du regard phénoménologique, c'est de faire apparaître ce qui précisément ne se montre pas non par défaut, mais par excès. Zur Sache selbst droit à la question, disait Husserl, mais, précisa Heidegger, en évoquant la même injonction à propos d'une phrase de Kant dans la critique de la raison pure, mais là où, dans le domaine où vaut disare selbst, où ce droit vers quoi il faut aller, tief eingehüllt ist, est profondément voilé.
Il est difficile de comprendre qu'un phénomène ne se voit pas parce qu'il est trop riche pour qu'on le voit.
La difficulté de la chose, et non pas en nous, comme le dit Aristote, car quand Aristote écrit la phrase que je viens de citer, comme les yeux des nocturnes devant la lumière du soleil, ainsi le regard de notre pensée devant ce qui par lui-même est le plus en lumière, il cherche à interpréter ça comme une difficulté qui serait en nous. Non, dit Heidegger, la difficulté précisément n'est pas du tout en nous, elle est dans la chose même. Et deuxièmement, si elle y est, c'est parce qu'il y a dans la chose même comme un refus de se montrer.
Vous parlez du non-dit dans le domaine de la pensée. Vous en avez parlé aussi sur le plan de la science. Mais est-ce qu'il n'y a pas un non-dit en poésie également?
Ben c'est peut-être là que se manifesterait la plus grande différence entre poésie et pensée. Dichten und Denken. Dans un entretien précédent, nous avions dit la philosophie comme métier de pensée n'est de même niveau qu'avec la poésie. C'est une phrase de Heidegger qui figure dans Introduction à la métaphysique de 1935. Mais il y a un mais, cette égalité de niveau n'a lieu de part et d'autre, et là Heidegger se réfère à Hölderlin, que sur des monts que disjoignent leurs cimes. Rien ne diffère plus de la poésie que l'exercice de la pensée. Non pas, comme le disait Nietzsche, parce que la poésie est encore à caractériser, tenant à la fois de la science et de l'art, peut-être de la religion, mais je crois que le mieux serait de lire ici le texte de Nietzsche auquel je pense. C'est un texte qui fait partie de ce qu'on appelle les écrits de jeunesse de Nietzsche. En effet, il est recueilli dans ce qu'on appelle le livre du philosophe, qui est bien antérieur à Aurore et au Gai Savoir. Eh bien, lisons le texte de Nietzsche, auquel je pense. Grand embarras de savoir si la philosophie est un art ou une science. C'est un art dans ses buts et dans sa production. Mais le moyen, das Mittel, à savoir la représentation en concept, elle l'a en commun avec la science. Il s'agit donc, avec la philosophie, d'une forme de poésie. En réalité, on ne peut pas la classer. C'est pourquoi c'est à nous qu'il revient de lui trouver un statut caractéristique. Nietzsche va à la ligne et continue. La description de la nature par le philosophe, il ne connaît qu'à titre de poète et il n'est poète que tandis qu'il connaît. À la ligne, il n'effectue pas de croissance. Je veux dire que la philosophie ne suit pas le même cours que les autres sciences. Même si certains domaines du philosophe passent peu à peu entre les mains de la science. Héraclite, au contraire, ne vieillira jamais. C'est la poésie, hors des bornes de l'expérience, comme prolongement de l'instinct mythique, essentiellement aussi en images, l'exposition mathématique n'appartient pas à l'essence de la philosophie. Dépassement du savoir par les forces formatrices du mythe. Kant, est un curieux phénomène. Savoir et croyance. Parenté intime entre les philosophes et les fondateurs de religion. Un problème étrange est celui de la décomposition des systèmes philosophiques. Rien n'y correspond du côté de la science et du côté de l'art.